Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Marianne Bastide-Bruguère est une sinologue française qui a enseigné à l'université de Pékin dans les années 60. Directeur de recherche au CNRS, ancienne directrice adjointe de l'école normale supérieure, elle a consacré l'essentiel de ses travaux à l'histoire de la Chine moderne et contemporaine tout au long de sa carrière. Chercheur de renommée internationale, ayant travaillé avec des sinologues du monde entier, sa connaissance de l'Asie et de la civilisation chinoise en font une observatrice avisée de l'actualité de la Chine. Élue membre de l'Académie des sciences morales et politiques en 2001, elle est vice-présidente pour l'année 2011. L'académicienne Marianne Bastide-Bruguière est avec nous à Canal Académie pour décrypter l'actualité chinoise de ces dernières semaines. Marianne Bastide-Bruguière, bonjour.
Bonjour.
Alors, les autorités chinoises ont entamé ces derniers mois et ces dernières semaines une série de voyages officiels auxquels les interlocuteurs européens et américains n'étaient pas très habitués. En 3 mois, le président Hu Jintao, le premier ministre et l'un des principaux vice-premiers ministres ont visité 8 pays de l'Union, plus la Turquie, et il y a eu ce grand voyage officiel également du 18 au 21 janvier aux États-Unis, à Washington. Comment expliquez-vous ce tour du monde officiel des plus hautes autorités chinoises ?
Le voyage aux États-Unis était rendu nécessaire par la tension croissante qui s'était dessinée dans les relations sino-américaines pratiquement depuis l'accession au pouvoir de M. Obama. La tournée en Europe de Li Keqiang, elle était rendue nécessaire par le fait qu'il va être un des héritiers. Et donc, il faut qu'il se fasse connaître. Et que d'autre part, le gouvernement chinois est soucieux de sentir, de tâter la température de l'Europe, d'évaluer son union, la solidité de cette union, et de mesurer le crédit qu'elle peut donner aux initiatives européennes. Également, le gouvernement chinois est très soucieux de développer ses investissements extérieurs, et en particulier en Europe. Donc, c'est un tour, au fond, d'observation qui concerne surtout, à mon avis, la politique économique de la Chine, mais qui a aussi des visées politiques, en ce sens qu'il faut savoir dans quelle mesure l'Union européenne peut peser ou non dans des décisions mondiales générales. Le travail était partagé avec le Premier ministre, d'ailleurs. Mais l'essentiel, c'était quand même le voyage à Washington. Et ce voyage à Washington a braqué à nouveau le phare de l'actualité sur la Chine. Mais il faut dire que dans ces derniers mois, à peu près tous les jours, nous trouvions dans les médias des commentaires sur la Chine, en particulier concernant le rôle de la Chine dans le développement de la crise.
Ses intérêts en Europe.
Ses intérêts en Europe, mais surtout du fait du volume de ses exportations, du fait de sa concurrence industrielle et de l'enchère qu'elle produit sur les matières premières. On a une analyse récurrente de l'importance de la Chine dans le développement de la crise. Et aussi, on considère les moyens que la Chine pourrait utiliser pour faciliter la relance mondiale. Donc, l'analyse a toujours 2 volets.
Ce voyage officiel avait un horizon plus large que les seules questions économiques et financières, mais peut-être commençons par rappeler, Marianne Bastide-Bruguière, à quand remontent les précédentes visites de Hu Jintao aux États-Unis ?
Hu Jintao n'était pas retourné aux États-Unis depuis avril 2006, du temps de la présidence de George Bush.
Il y avait la volonté d'effacer un petit peu la relation antérieure avec Bush, justement.
Hu Jintao avait rencontré le président Obama une première fois à Londres, en avril 2009, et le président Obama était venu en Chine en novembre 2009. Mais depuis, les tensions avaient été assez sérieuses et elles révélaient des antagonismes beaucoup plus profond que le discours officiel qui parlait quand même toujours de l'amitié sino-américaine ne le laissait paraître.
Est-ce que c'est la crainte d'un nouveau climat de guerre froide qui a motivé la reprise de ces relations effectives, concrètes ?
Oui, certainement. En tout cas, du côté chinois. La Chine avait pris une attitude très intransigeante dans une série de litiges, ceux qui concernent les questions maritimes en mer de Chine du Sud, en mer de Chine de l'Est et en mer Jaune. Et cette attitude intransigeante suggérait qu'elle voulait, qu'elle pouvait changer des règles de pouvoir dans tout le Pacifique occidental, ce qui préoccupait à la fois les États-Unis, le Japon et également les pays d'Asie du Sud-Est. Dans toutes les négociations relatives au changement climatique, la Chine s'était refusée à prendre aucun engagement et elle s'était refusée à réduire de façon précise ses émissions de gaz carbonique, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'elle ne l'ait pas fait à usage interne. La Chine n'avait pas cédé non plus sur la question du taux de change du dollar, la question du taux de change de sa monnaie par rapport au dollar. Elle n'avait pas voulu réévaluer la valeur de sa monnaie par rapport au dollar. Elle n'avait pas voulu non plus s'associer à une démarche collective en réponse aux provocations de la Corée du Nord pendant l'été dernier. Et à l'égard de l'Iran, elle avait consenti à voter les sanctions qui étaient décidées au Conseil de sécurité, en particulier la dernière sanction en juin 2009, mais elle n'avait pas utilisé de restrictions économiques à l'égard de l'Iran et au contraire, ses compagnies pétrolières continue à acheter le pétrole. L'Iran est un des grands fournisseurs de la Chine et la Chine n'a pas l'intention de s'en priver. Et ces compagnies pétrolières chinoises restent en Iran prêtes à rebondir pour augmenter encore leurs échanges. Et tout récemment, la Chine a conclu avec l'Iran un accord pour la construction d'un chemin de fer qui relierait Téhéran à la Chine, au Xinjiang, à travers l'Afghanistan.
Qui va le construire ?
Les Chinois.
Les Chinois.
Par ailleurs, dans les milieux influents, c'est-à-dire essentiellement les militaires et les gens d'affaires qui jusque-là avaient soutenu le maintien de bonnes relations entre les États-Unis et la Chine, on observait des différences, des divergences, et au fond le consensus apparaissait comme commençant à se briser. Les militaires des deux pays se sont encore rencontrés au plus haut niveau en juin 2009, mais il n'y a plus eu d'échanges approfondis pendant toute l'année 2010. Et par exemple, au moment des incidents dans le golfe de Corée, il n'y a pas eu de consultation. Quand les États-Unis ont décidé une nouvelle vente d'armes à Taïwan qui portait sur plus de 6 milliards de dollars en janvier 2010, évidemment, il y a eu une protestation chinoise virulente. Et à la suite de cela, les militaires chinois ont retardé, refusé, renvoyé des rendez-vous qui étaient prévus avec les militaires américains. Et ce n'est que le 10 janvier 2011, c'est-à-dire 10 jours seulement
avant la
visite de Hu Jintao à Washington, qu'il y a eu une rencontre entre le secrétaire de la Défense Gates et le ministre de la Défense chinois.
La volonté d'évaluer au mieux le rapport militaire entre la Chine et les États-Unis serait ainsi à l'origine de cette rencontre officielle entre les plus hauts représentants chinois et américains ?
Il y a eu une reprise des contacts et il a été décidé que les contacts réguliers étaient nécessaires et qu'en particulier, il était important pour les Américains de savoir ce qui se passait dans l'armée chinoise, quel était le niveau des armements. Et pendant la visite de Gates, il s'est passé quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Il y a eu un essai d'avion furtif chinois, d'un avion d'un nouveau modèle qui a été fabriqué par les Chinois. Et Gates l'a su le matin d'une entrevue avec Hu Jintao, les hauts dignitaires. Et apparemment, les hauts dignitaires chinois n'étaient même pas au courant. Ce qui a laissé penser aux Américains que les militaires chinois agissaient en partie à l'écart des autorités civiles. Mais malgré tout, Gates a dit que Hu Jintao tenait bien en main le commandement militaire. Néanmoins, ces contacts sont importants, certainement, pour que l'armée américaine ne se crée pas des mythes ou des représentations erronées sur la puissance réelle de l'armée chinoise ou les buts, les objectifs stratégiques de cet armement. Donc cette reprise de contact est importante et elle s'inscrit dans toute la stratégie de la visite de Hu Jintao.
Ce sont des questions
très importantes.
Alors, quelle est l'actuelle stratégie américaine à l'égard de l'émergence de la puissance chinoise sur le plan mondial?
Mais en réalité, il semble qu'elle ait évolué à la suite de la visite de Hu Jintao. C'est-à-dire que pendant l'année 2009 et 2010, les Américains ont de nouveau fait acte de présence assez manifeste sur différents terrains en Asie orientale pour contrer ce qu'ils soupçonnent être, à juste titre d'ailleurs, les ambitions de la Chine de repousser la barrière vers le Pacifique qui pour eux est orientale. Mais
oui.
Et la Chine, au moins un certain nombre des stratèges chinoises, souhaiterait que le Japon soit entièrement dans l'orbite de la Chine et que les Américains quittent toute cette zone et notamment qu'ils abandonnent leur base
américaine
au Japon.
Au Japon. Héritage de la Deuxième Guerre mondiale qui est toujours très présent.
Oui. Et la réaction, certainement, à l'intérieur du gouvernement chinois et du commandement de l'armée chinoise est qu'il faut écarter le plus loin possible cette intrusion américaine. Le problème n'est pas seulement celui des militaires et des divergences à l'intérieur, alors que précédemment, ils appuyaient l'alliance avec les États-Unis simplement parce que ça leur évitait de développer des armements trop puissants. Dans un sens, c'était une protection, puisque l'ennemi principal, ça pouvait être les États-Unis, et que s'ils n'étaient pas dangereux, on pouvait aller plus lentement dans l'amélioration de l'armée. Mais le problème n'est pas seulement du côté des militaires, c'est que dans les milieux d'affaires aussi, il est apparu des divergences sur l'attitude à adopter vis-à-vis des Américains.
Comment réagissent donc les milieux d'affaires chinois ?
Du côté des Chinois, la Banque de Chine était plutôt assez favorable à donner satisfaction aux Américains pour une réévaluation de la monnaie chinoise. Pourquoi ? Parce que, aux yeux de la Banque de Chine, cela permet de juguler l'inflation éventuelle en Chine et de diminuer la surchauffe de l'économie chinoise qui tient à un excès de liquidité. Ils ne voulaient pas réévaluer beaucoup, mais ils ont quand même accepté de réévaluer un petit peu.
C'était déjà un grand pas.
En revanche, les groupes intéressés et les groupes d'hommes d'affaires, qui sont en réalité des sortes de trusts à moitié d'État, parce que ce sont des groupes qui fonctionnent avec des capitaux qui sont entièrement des capitaux d'État, pas des capitaux privés, même s'il y a une privatisation de la gestion. Ces grands groupes intéressés à l'exportation sont tout à fait hostiles à la réévaluation de la monnaie chinoise parce qu'ils disent que cela va diminuer les exportations et entraîner un chômage massif en Chine. Et là, c'est un argument qui pèse, parce que la crainte de troubles sociaux est permanente. Dans le camp américain, dans les milieux d'affaires qui soutenaient l'amitié sino-américaine, on voit des phénomènes de fracturation un peu identiques. C'est-à-dire
c'est nouveau,
que,
ça.
Oui, que les groupes d'affaires américains deviennent plus réservés sur les avantages qu'ils trouvent sur le marché chinois. Il y a eu un sondage qui a été fait en 2010 par la Chambre américaine de commerce en Chine qui montre qu'il y a maintenant 38% de groupes d'affaires américains installés en Chine qui considèrent qu'ils sont indésirables en Chine. Alors que l'année précédente, il n'y en avait que 23%. Donc il y a un fort sentiment
climat,
d'être rejeté. Et ils se plaignent, comme les hommes d'affaires français d'ailleurs, d'énormément d'infractions aux droits de propriété intellectuelle, de contrefaçon, d'énormes difficultés du fait de toutes sortes de surtaxes qu'imposent les Chinois. En réalité, c'est des pots de vin qu'il faut verser pour toutes sortes de choses. Et d'une réglementation à la fois extrêmement tatillonne et complètement incertaine. C'est-à-dire que même quand vous allez devant les tribunaux, en croyant que vous avez le droit pour vous, on n'applique pas le droit, ou bien c'est une autre législation qui tout d'un coup est applicable. Donc, du côté des hommes d'affaires américains, beaucoup de réticences s'expriment et dans le public américain, l'idée que la Chine vole les emplois des Américains parce que beaucoup d'usines se sont délocalisées est une idée qui est extrêmement courante et qui alimente toute une partie d'opposition d'ailleurs au président Obama. Parce que le gouvernement américain était aussi soucieux que les Chinois de la rencontre.
Que peut-on retenir de la récente visite officielle alors du président chinois aux États-Unis ? Et quels étaient leurs objectifs ?
Du côté américain, c'était d'abord de rétablir un climat de confiance, en essayant, notamment de la part du président Obama, de nouer un lien humain personnel avec son homologue chinois.
C'est une idée qui vient de lui, ça ?
Oui, certainement. Certainement. C'est sa manière de traiter les affaires. Et selon la formule de Gates, le secrétaire d'État à la Défense en quittant la Chine, le développement de la puissance militaire de la Chine en fait un adversaire stratégique inévitable pour les États-Unis. Mais, disait Gates, le seul terrain de dispute réel avec les États-Unis, c'est la liberté des mers, c'est le problème de la circulation, de la liberté de navigation dans les mers du sud de la Chine. Donc, on pouvait espérer clarifier les positions respectives sur un certain nombre de questions internationales et plus spécialement sur des questions touchant la région Asie-Pacifique pour éviter que les divergences ne s'enveniment et pour essayer au contraire de trouver une voie de solution ou au moins une voie d'apaisement à ces conflits. Pour les Américains, il fallait aussi sonder les intentions et les perspectives de la Chine pour arriver à faire d'elle un partenaire responsable dans les négociations mondiales sur des questions telles que le changement climatique, la prolifération nucléaire, la lutte contre le terrorisme et la piraterie, mais surtout sur tout ce qui concerne la gouvernance financière et économique. Et sans se faire trop d'illusions, le gouvernement américain espérait que la Chine accélère la réévaluation de sa monnaie et qu'elle fasse un geste pour rééquilibrer le commerce bilatéral qui est très déficitaire pour les États-Unis puisque les États-Unis importent pour 400 milliards de dollars de la Chine et la Chine n'achète que 100 milliards de dollars aux États-Unis. Donc c'est un gros trou. Les Chinois contestent ces chiffres et tout récemment ils ont sorti d'autres chiffres dans lesquels ils font une comptabilité très subtile qui concerne les exportations chinoises, dont, disent-ils, une grande partie sont dues en réalité à des entreprises étrangères, notamment des entreprises américaines. Donc, dans les exportations chinoises, entre une grande part de bénéfices américains. Par conséquent, le déficit commercial américain ne doit pas être mesuré par cet énorme écart, un quart, trois quarts. Mais enfin, ce sont des calculs qui restent encore à vérifier.
Marianne Bastide-Bruguière, quels étaient les objectifs du gouvernement chinois, au fond, dans cette rencontre officielle sino-américaine de janvier 2011 ?
Du côté du gouvernement chinois, il y avait d'abord la volonté d'empêcher absolument que ne s'installe un affrontement du type de celui qui existait entre les États-Unis et l'Union soviétique au temps de la guerre froide. Il faut penser que Hu Jintao est né en 1942. Il a connu la fin de la guerre civile, et toute sa jeunesse, c'est la période de la guerre froide. Et l'analyse des dirigeants chinois de cette génération, c'est que la guerre froide a coûté extraordinairement cher à l'Union soviétique, puisque finalement, elle a disparu. Et surtout, le régime communiste a disparu à cause de ça. Qu'elle a coûté très cher au peuple aussi, et que c'est un type de relation qu'il faut à tout prix éviter. Et comme une grande partie de la population, les dirigeants ont le sentiment que la Chine a considérablement accru sa puissance mondiale à la faveur de la crise, à cause du déclin relatif des États-Unis. Ça, ils sont tous persuadés que la puissance américaine connaît un déclin relatif. Mais ils sont très conscients de leurs faiblesses intérieures et du prix que peut coûter un affrontement permanent avec une grande puissance.
C'est de l'intérêt presque commercial là, qui l'emporte. Bah,
c'est un intérêt de survie.
De survie.
Et de survie de leur bien-être. Et ils cherchent à saisir toute occasion. C'est une expression qui revient sans arrêt dans les discours à usage interne. Il faut saisir l'occasion. Au début de l'année, en présentant leur programme pour les années suivantes, ils ont dit, en 2010, on s'est bien débrouillé, et en 2009 aussi, on a saisi les occasions, il faut continuer, il faut être très attentif à la situation. C'est comme un jeu d'échecs, si vous voulez, ou le jeu de Go, qui est le jeu favori des Chinois. Et il faut agir rapidement quand l'occasion s'en présente. Donc, saisir toute occasion de servir leurs intérêts, d'augmenter leur poids mondial, mais ils militent pour le multilatéralisme. Ils ne veulent pas être enfermés dans une bipolarité.
C'est une diplomatie et une stratégie là, diplomatique très fine, en fait.
Oui, très subtile, mais qui est fondée sur une analyse de l'histoire, de leurs forces intérieures.
Et de leurs faiblesses également.
De leur d'après
ce que vous nous expliquez.
De leurs faiblesses et
ce qu'on mesure
du coût de la diplomatie mondiale aussi. Il s'agissait donc pour eux de s'assurer que pour quelque temps encore, parce qu'ils ne se font pas d'illusions, ils savent bien que tout cela peut changer, que les situations, mais qu'au moins pendant un certain temps encore, les États-Unis ne feraient pas obstacle à l'essor de leur puissance. Et pour cela, ils étaient prêts à admettre la légitimité d'une certaine présence américaine en Asie orientale. Et dans le communiqué final, il est dit que la Chine reconnaît les États-Unis comme une puissance d'Asie pacifique.
Dans le communiqué final
du voyage officiel
du 18
Obama
janvier.
Entre Obama et Hu Jintao. C'est donc pour les États-Unis une victoire, parce que c'est écrit noir sur blanc. Et pour les Chinois, c'est quand même une grande concession, parce que toute une partie de l'opinion chinoise dirigeante considère que les États-Unis n'ont rien à faire en Asie. Mais ils admettent donc une présence américaine dans cette région.
Marianne Bastide-Bruguière, comment cet accord va-t-il se traduire maintenant, va être mis en œuvre au regard de l'actualité, de ce qui va se passer?
Les Chinois ont eu le sentiment aussi, ça a été beaucoup dit dans la presse, qu'ils étaient maintenant à égalité, et considérés par les Américains vraiment à égalité, comme des partenaires pleins. Mais ils ont mis à l'écart quand même dans leur communiqué final un certain nombre de points difficiles, et en particulier la question de la navigation dans les mers du Sud. En revanche, a été affirmée, noir sur blanc, une solidarité en ce qui concerne le règlement du problème nucléaire en Corée et le règlement des problèmes de Corée, la solution du problème nucléaire en Iran, un partenariat pour lutter contre ce qu'ils appellent des partis extrêmes.
Alors, quels sont ces partis extrêmes?
Avant, c'était le terrorisme, carrément. Mais là, c'est les partis extrémistes. Donc, ça peut englober beaucoup de choses. La piraterie, la lutte contre la faim, la famine, les épidémies, la limitation des armements nucléaires. Donc, toute une série de questions importantes. En revanche, il n'est rien dit sur la gouvernance économique et financière. Ça n'apparaît pas du tout dans le communiqué final. Donc, ça sera quand même un élément important. Et probablement parce que les Chinois n'ont pas voulu. En revanche, pour consoler les Américains, ils ont accordé 45 milliards de contrats, ce qui doit procurer en principe 250 000 emplois aux Américains. Donc Obama était content parce qu'il en retirait quelque chose. Mais ce partenariat nouveau entre les Américains et les Chinois, il va être mis à l'épreuve, à mon avis, dans les jours qui viennent, dans tout ce qui se passe, partout ce qui se passe dans les pays arabes, au Moyen-Orient, en Égypte.
Parce que là, on assiste à une déstabilisation probable de l'échiquier mondial.
Les Chinois sont fortement installés dans ces pays. Ils ont également de très bonnes relations avec Israël.
Quelles sont les relations, justement, des Chinois avec eux?
En Égypte, ils ont signé, le mois dernier, un accord extrêmement important de coopération avec l'armée égyptienne pour la fabrication d'avions à la fois civils et militaires avec des équipements électroniques extrêmement sophistiqués. Et les ingénieurs égyptiens, un certain nombre d'ingénieurs égyptiens sont déjà en Chine pour travailler. Donc il y a des contrats considérables. Et les relations de la Chine avec l'Égypte, elles sont anciennes. Du temps de Nasser, il y avait déjà des relations importantes.
Il y avait beaucoup de bases militaires soviétiques, même.
Il y a également beaucoup de Chinois musulmans qui viennent en Égypte. Et les Chinois ont des étudiants qui étudient l'arabe en Jordanie, dans tous les pays, en Syrie aussi. Donc il y a une présence importante et des liens importants, et des liens qui sont souvent relativement anciens. Ils ont aussi des très bons spécialistes du monde arabe, ils ont d'excellents iranologues. Alors on a parlé dans la presse française, également dans la presse anglo-saxonne, des limites que le département de la propagande du Parti communiste chinois avait mis à la diffusion des nouvelles concernant l'Égypte.
Ce qui est ressorti là dans la presse, oui, c'est ça, oui, que le mot Égypte était censuré.
En réalité, qu'en est-il ? Il y a quand même des informations, et des informations expliquant que c'est un mouvement d'opposition contre Moubarak, et il y a eu beaucoup de victimes parmi les opposants. Il est précisé quelles sont les victimes, par exemple, parmi les frères musulmans. Ce qui est vrai, c'est que les reportages
sont orientés plutôt...
Non, ils ne sont pas orientés vers Moubarak spécialement. Non, oui. Ils restent absolument, enfin, je trouve, attentistes, attendant de voir ce qui se passe. Mais ils insistent sur le désordre et sur le fait que la vie économique est interrompue et que l'insécurité règne partout.
Et vu l'expérience de la révolution et des mouvements insurrectionnels
donc,
pour les autorités chinoises...
C'est évidemment un effet dissuasif. Et puis, il y a beaucoup de reportages sur les Chinois. Il y avait beaucoup de touristes chinois, parce que maintenant, ils ont beaucoup d'argent pour voyager. Et donc, il y avait beaucoup de gens qui étaient en Égypte et pour lesquels l'ambassade de Chine a immédiatement organisé
de façon
très efficace, semble-t-il, des vols de retour. Et on interrogeait les personnes et elles insistaient sur la terreur qu'elles avaient eue, le désordre et l'incertitude dans laquelle on était. Bon, effectivement, il n'y a pas de commentaires sur les blogs parce que certainement, il n'y a aucun doute que c'est bloqué. Mais il y a quand même beaucoup d'informations et des images.
Et les Chinois décryptent ce qui se passe tout de même.
Il n'y a aucun doute.
Il n'y a aucun doute là-dessus.
Il n'y a aucun doute.
Que les 405...
Et il n'y a aucun doute. Et il n'y a aucun doute qu'au Xinjiang, ça doit être... Mais
suivi.
Je n'ai pas vu de témoignage sur ce qui était arrêté au Xinjiang. Si c'était pire que dans le reste de la Chine, ou si on voyait la même chose que dans le reste de la Chine. Si on diffusait, d'accord, si on laissait diffuser au Xinjiang la même chose que
dans le reste
ce
de la
qu'on
Chine.
Laisse diffuser dans les 18 provinces.
Dans cette région qui est justement en proie aux grandes insurrections et révoltes quasi permanentes. Je ne suis pas la spécialiste.
Qui est beaucoup plus sensible à tout ce qui se passe dans le monde musulman.
Qu'est-ce que vous avez perçu, vous, de la relation privilégiée qu'aurait pu ou qu'a pu s'établir entre Barack Obama et Yun Tao? De cette relation personnelle et privilégiée, qu'est-ce que vous pourriez, en bonne observatrice, dire?
Les commentaires chinois, aussi bien ceux des journalistes officiels que les commentaires des universitaires ou des gens ordinaires, ont tous monté en épingle le fait que, le jour de son arrivée, Hu Jintao avait été reçu à la Maison-Blanche dans un dîner privé de 6 personnes seulement. Et on a dit que jamais personne, je ne sais pas si c'est exact, n'avait reçu un traitement de ce genre à la Maison-Blanche, que ça montrait au fond que Hu Jintao était comme un empereur, enfin que c'était ça. Et les Chinois étaient très, très flattés en pensant que c'était, ça montrait leur position tout à fait spéciale et vraiment à égalité avec les États-Unis. Quand on regarde les photos, il y en a plusieurs qui sont sorties, on est frappé de l'aspect guindé de Hu Jintao. Le président Obama et sa femme font des sourires et ils ont l'air les meilleurs hôtes qu'on puisse imaginer, mais enfin, ils n'ont pas l'air quand même... On n'a pas l'impression que le courant passe beaucoup. Hu Jintao n'est pas du tout quelqu'un capable d'être jovial comme l'était le président Jiang Zemin, qui était son prédécesseur. Il n'a pas non plus le sens du théâtre et du jeu, et le goût du jeu, et pas simplement vraiment du jeu, il aimait jouer au bridge, qu'avait Deng Xiaoping, qui avait vécu en France, qui était un peu Gavroche parisien, et qui était capable de mettre un feutre de cow-boy quand il était aux États-Unis. Ce n'est pas du tout le genre de Hu Jintao. Hu Jintao est un homme qui est né en Anhui, là, qui est une province assez austère et pas très favorisée par la nature, et il est un peu compassé. Alors, à la fin du séjour, il sourit un peu plus, mais on a quand même le sentiment que probablement les deux hommes se comprennent mieux, ils se connaissent mieux, mais qu'il n'y a pas une fraternité réelle, enfin, comme le courant peut passer avec des dirigeants chinois, avec certains dirigeants chinois et pour d'autres dirigeants occidentaux. Je pense par exemple que Bush avait un meilleur rapport personnel que ne l'a Obama. Mais pas de sa faute, c'est parce que Hu Jintao est comme il est.
Et il est comme ça aussi, ou probablement comme ça avec les autres dirigeants, par exemple européens. Il n'y a pas eu de franche rigolade.
Non, on n'a pas le sentiment qu'il se livre beaucoup, mais c'est certainement son tempérament. Les rapports sont plus faciles avec Wen Jiabao, qui est plus onctueux, plus facile. Mais ça ne veut pas dire que ce soit des rapports profonds. Ce que je pense, c'est que quand Obama est arrivé au pouvoir, pour les dirigeants chinois, ça a quand même été un choc. Parce que l'idée que les États-Unis soient dirigés par un noir, ce n'est pas que c'était difficile à accepter, c'est le choix des citoyens américains. Bon, en principe, ils n'interviennent pas dans la politique intérieure des autres pays. Mais c'était quand même assez spécial pour eux. Ah, vraiment assez spécial. Parce que pour eux, l'Amérique est l'essence de la puissance blanche. Et donc, cette situation-là,
ça les renvoie
d'un homme qui n'était même pas d'une ascendance américaine très, très ancienne, était un peu compliqué à assimiler. Et le tempérament d'Obama n'est pas exactement celui de l'Américain typique pour eux. Bush l'est beaucoup plus.
Ça ne correspondait pas à la vision traditionnelle qu'ils en avaient.
Non, ça ne correspond pas à leur représentation
habituelle.
C'est certainement difficile à mesurer, à évaluer, etc.
Et ça les renvoie aussi à leur propre multicommunautarisme.
Oui.
Parce qu'en Chine, il
oui,
y a aussi...
Oui, mais enfin, pour eux, l'idée d'avoir un président ouïghour ne se pose pas. Non, je ne crois pas.
Si ça arrivait, ça ne changerait rien. C'est ça que vous voulez dire ? Au contraire, c'est impossible ou impensable. La question ne se pose pas, ça ne sera pas.
La question ne se pose pas.
La question ne se pose pas.
Non, on peut en faire un vice-président, oui, mais pas... Non.
Pas un président.
Pourtant, ils ont été gouvernés très très longtemps par des halogènes, parce que toute la dynastie des Qing, quand même, de 1644 jusqu'à 1912, était manchou. Et puis avant, ils avaient eu les Mongols. Donc ils ont l'habitude d'être dirigés par des non-chinois ethniquement. Mais aujourd'hui, je pense que ça serait un peu compliqué quand même. Enfin, de toute façon... Pour quelqu'un d'une minorité, même très, très brillant et très remarquable, monter jusqu'au sommet de la hiérarchie chinoise, ça n'est pas évident.
Ça n'a pas non plus été très évident aux États-Unis, ça s'est concrétisé,
non.
Ça a été long.
Non, aux États-Unis, il a fallu très longtemps.
Il a fallu également très longtemps. Merci beaucoup, Marianne Bastide-Bruguière, de cet éclairage sur la Chine d'aujourd'hui et sur ce retour sur l'actualité récente du séjour du président chinois aux États-Unis. Merci.